nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
François Hollande avait évoqué lors de sa campagne présidentielle la nécessité d'expérimenter des salles d'injection dans lesquelles les toxicomanes pourraient s'injecter leur dose de drogue dans un environnement sécurisé. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a donc exprimé sa volonté d'ouvrir des salles de shoot le 30 août 2012. Paris, Marseille et Toulouse sont prêtes à ouvrir ces salles. Ces ouvertures qui se feront dans un premier temps à titre expérimental suscitent le débat. Pour en parler aujourd'hui, Canal Académie a joint par téléphone le professeur Jean Constantin, membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie de pharmacie. Il est également président du Centre national de prévention, d'études et des recherches en toxicomanie, le CNPERT. Professeur Constantin, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, il me faut préciser en préambule que l'Académie de médecine avait déjà rendu un communiqué en janvier 2011 sur ce projet de création de salles d'injection pour toxicomanes en France. Un communiqué dans lequel elle marquait d'ailleurs son opposition à un tel projet. Aujourd'hui, professeur Constantin, vous parlez en votre nom et non en celui de l'Académie nationale de médecine.
Tout à fait.
Et vous vous opposez, vous aussi, donc, à l'ouverture de ces salles de shoot, comme on les appelle communément ?
Totalement. Nous y opposons à 36 égards et je pense que vous avez souhaité connaître mes divers arguments à cet égard.
Exactement. Alors, quel est l'argument principal, professeur Constantin, qui vous fait donc vous opposer à la création de ces salles d'injection ?
D'abord, ça constituerait un très mauvais signal pour notre jeunesse. Nous sommes actuellement confrontés à une invasion toxicomaniaque de notre société et indiquer que l'État, au lieu de maintenir une vigilance contre le développement des toxicomanies, organiserait des lieux où certains pourraient venir avec leur drogue se faire injecter au calme, en contravention de la loi, me paraît un très très mauvais signal. On nous parle ensuite d'expérimentation. Eh bien, la France, hélas, n'a pas la culture de l'expérimentation. Tout ce que nous faisons communément est gravé dans le marbre. Et nous sommes incapables, donc, de faire marche arrière. Ça a été vrai pour la méthode globale de la lecture, et j'aurai 10 ou 100 autres exemples à vous indiquer. Donc, en fait, l'idée que certains poursuivent est de mettre le pied dans la porte, en sachant que dès qu'elle sera entrouverte, il deviendra impossible de la refermer. Je suis d'ailleurs surpris que ce sont souvent les mêmes qui prônent la dépénalisation de l'usage du cannabis et l'ouverture de ces salles de shoot, c'est-à-dire qui en fait visent à accroître le nombre de toxicomanes et d'organiser au bout de cette trajectoire, hélas malencontreuse, eh bien, des lieux où on renonce à les sortir de leur toxicomanie et on leur donne en fait la drogue qu'ils appellent de leur vœu. Un autre argument me paraît très important, c'est celui de la responsabilité médicale. Quel médecin pourra accepter de superviser l'injection de produits qui n'auraient pas une qualité médicamenteuse?
Vous avez peur que le corps médical, en fait, se retrouve à cautionner des injections de drogues qui peuvent être mortelles?
Tout à fait, des produits de la rue, de produits contaminés. Et l'on sait que lorsque l'héroïne est vendue, eh bien, ça n'est peut-être que 30-40% d'héroïne que l'on trouve noyée dans tout un tas de substances de dilution. C'est par le jeu d'ailleurs de cette dilution que le toxicomane dégage les moyens d'acheter celle-ci. Donc quel médecin accepterait d'autoriser et de superviser l'administration d'un produit qu'il sait foncièrement impur? Vous connaissez le débat sur les génériques. On dit, est-ce que les génériques valent les princeps? Eh bien, c'est vraiment là des propriétés qui sont extraordinairement voisines. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc, le deuxième temps, car il y a une stratégie derrière cela, c'est de dire oui, on ne peut pas continuer de superviser cela. Donc il va falloir que nous fournissions la drogue, une drogue de qualité. Et comment pourrait l'acquérir celui qui viendrait se la faire injecter, puisqu'il n'aurait plus ces contournements, ces détournements qui sont ceux de la dilution, pour dégager les moyens de l'acquisition. Donc le troisième pas, après l'ouverture, ce serait la fourniture d'un produit irréprochable, si je puis dire, et enfin, le fait de l'offrir gratuitement. Vous imaginez l'énorme appel d'air que cela ne manquerait pas de comporter pour les toxicomanies. La toxicomanie doit être, en fait, dissuadée. Si vous transformez les chemins escarpés de pauvres itinéraires du toxicomane en une allée bordée de roses, il y aura là aussi un effet d'appel considérable. Responsabilité médicale aussi, qu'advient-il lorsque le sujet va ressortir de ses salles de shoot dans l'état second qui lui sera procuré par l'administration de la drogue? S'il se met à agresser une personne, s'il a un accident, s'il en provoque un, que sais-je? Eh bien, où est-ce qu'on vous a fait ça, dira-t-on? Et il se retournera très naturellement vers le lieu où des médecins et du personnel infirmier l'aura permis donc son injection calme ou calme de sa drogue. Il y a aussi l'aspect de coût, car cela est d'un coût considérable. Ça ne peut pas être géré avec des heures d'ouverture étroites parce que le toxicomane s'injecte 3, 4, 5, 6 fois par jour, y compris au cours de la nuit. Donc cela aurait un coût considérable. Or, nous déplorons en France de ne pas disposer d'assez de moyens pour la prise en charge médicale, celle-là, des toxicomanes, aux fins d'installer chez eux, progressivement sans doute, l'abstinence. Eh bien donc là, on trouverait des moyens, d'un seul coup, non pas pour soigner, non pas pour traiter, mais pour administrer la drogue à ces infortunés toxicomanes.
Est-ce que vous pensez, professeur Constantin, que ces salles d'injection pourraient contribuer à augmenter la consommation des drogues dans la population?
J'en suis infiniment convaincu. Je vous dis, il y a déjà l'aspect signal. L'État qui a interdit la drogue se met simultanément à organiser des lieux, des espèces de squats de la santé, où donc, sous supervision médicale, avec des crédits d'État, eh bien, le toxicomane pourrait venir se faire injecter. Mais vous voyez combien, dans l'esprit de notre jeunesse, cela peut avoir de caractère perturbateur pour l'image de la drogue. Il faut créer la version complète de la drogue. Certains pays y sont parvenus, je pense en particulier à la Suède. Dès l'école maternelle, on apprend aux mômes à frissonner quand ils entendent prononcer le mot drogue. 40 heures d'enseignement sont dispensées pour aller donc vers une connaissance de la maternelle à l'université, pour aller vers une bonne connaissance des risques, des méfaits, des toxicomanies. Vous voyez là le signal totalement contre-productif dans un pays où justement cette pédagogie est si peu faite ou est si mal faite. Vous savez par exemple qu'à l'échelle européenne, sur les 27 États membres de l'Union européenne, les Français sont les plus gros consommateurs de cannabis. Vous connaissez les chiffres du tabagisme en France avec ses 66 000 morts chaque année. Vous connaissez les chiffres de l'alcoolisme. Près de 4 millions d'entre nous sont en délicatesse avec l'alcool, incapables d'être un jour au moins par semaine à s'en passer. Donc la France a des relations très particulières avec les toxicomanies. Ensuite, la France a mis en place des dispositifs qui n'existent pas dans les pays où ces centres ont été mis en place. Nous avons en particulier la dispensation libre, voire en certains lieux gratuite, de seringues afin d'empêcher la contamination du sujet qui recourt aux drogues injectables par les virus de l'hépatite, par les virus du sida. Donc, cette notion donc de prévention de ces maladies par le jeu de ces salles de shoot est là encore une argusie. Ces sujets qui y accèdent le feraient après un si long parcours de toxicomanie que s'ils n'avaient pas pris leurs précautions avant, ils seraient déjà de longue date contaminés par ces hépatites ou par le sida.
Et pourtant, professeur Constantin, dans les autres pays où il existe déjà des salles d'injection, je pense à l'Allemagne, à la Suisse, à l'Espagne, il y a aussi des chiffres qui prouvent que les risques d'infection ont baissé et que la prévention, l'accompagnement psychologique sont importants.
L'infection sans doute, mais ces pays n'avaient pas mis en place, eux, ce système de dispensation libre et gratuite des seringues. Nous avons mis cela en place depuis longtemps. Et donc, le problème du sida, s'il reste prégnant chez nos toxicomanes, n'a plus l'acuité qu'il avait autrefois et est moins important que dans les autres pays européens. Il est d'ailleurs des expériences qui semblent être en train de tourner court, Vancouver par exemple au Canada. Et en Suisse, tous les cantons se sont gardés de ne pas reproduire l'expérience genevoise. Et même à Genève, le nombre de sujets accueillis a dû l'être de façon restreinte en imposant une limite au nombre de visites quotidiennes. Parce que vous savez que le credo du toxicomane, c'est toujours plus souvent, toujours plus fort. Qu'est-ce qui empêche le sujet, là où il existe en particulier cette héroïne médicale, le fait de se présenter plus de 6 fois par jour pour en obtenir? De plus, il a été montré que chez ces sujets qui bénéficiaient, si je puis dire, de ces programmes, le dosage dans le sang de leur héroïne a montré que cela ne les avait pas dissuadés de compléter leur dose par l'héroïne de la rue. On sait par des méthodes analytiques distinguer l'héroïne pure, qu'on pourrait qualifier donc de qualité pharmaceutique, et l'héroïne de la rue qui comporte donc des dérivés très particuliers qui permettent de l'identifier.
Eh bien, merci beaucoup, professeur Jean Constantin. Merci pour cet éclairage. Et je vais rappeler également que vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment sur le cannabis et sur les drogues. Alors, est-ce que vous pourriez, j'ai vu que vous aviez écrit des ouvrages, est-ce que vous pourriez me dire des titres?
Alors, il y a eu « Halte au cannabis », il y a 4 ans, aux éditions Odile Jacob. Et très récemment, « Pourquoi il ne faut pas dépénaliser l'usage du cannabis », toujours aux éditions Odile Jacob. Et il est paru, ce livre, il y a quelques 3 ou 4 mois environ. Et les médicaments du cerveau. Chez Odile Jacob, il y a de cela une petite dizaine d'années. Et il n'a pas pris beaucoup de rides. Je l'ai refeuilleté récemment. Il l'a assez bien vieilli parce que, en matière de psychotropes, eh bien, les innovations ne sont pas telles qu'elles l'ont fait vieillir prématurément.
Merci en tous les cas, professeur Constantin, membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie de pharmacie, pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Au revoir, monsieur Constantin, et merci.
Merci de vos questions, cher monsieur, et au plaisir.